Audiolib présente. Théo de Alain Lévy. Traduit de l'anglais par Sophie Aslanid. Lu par Philippe Spiteri. Kirby Culbertson, avec toute ma reconnaissance pour notre longue amitié, et pour te rappeler, juste entre nous, que tu as promis d'acheter 100 exemplaires du livre si je te le dédie. Ce sera en espèces ou par carte? Le halo fané d'Hélène. Les chaussures de Noël de Lamisha W. Le flacon de pilules de Bobo. Et trouver une plume du jet absent. Ciel d'octobre au-dessus de l'Oxbow. Paysage océanique à Biscopo. Les bleus de Golden étaient en abondance cette année-là. Tiré d'une brochure annonçant une exposition à l'Asile La Galerie. Prologue. Théo n'a passé qu'un an à Golden, du printemps au printemps suivant. Il arriva juste avant Pâques, au moment où le Bowery et la promenade étaient un océan de fleurs de cornouiller et d'azalées. Au moment où le pollen se déposait comme un vernis jaune citron sur toutes les surfaces de la ville. Avec le temps, ses amis apprendraient qu'il éprouvait une immense tendresse pour les rivières et les fleuves, que ce soit le Douro de son enfance, la Seine de sa période glorieuse, le fleuve Hudson de sa retraite, ou la demi-douzaine d'autres qui coulaient dans les diverses villes qu'il avait faites siennes. Son instinct semblait l'attirer vers les eaux mouvantes. Le fait qu'il ait grandi dans une nation de la mer l'expliquait sans doute en partie. Peut-être que chaque fils du Portugal a dans son sang l'esprit de Magellan. Quelle que fût la raison, il n'était pas surprenant qu'il choisisse de vivre au bord de l'Oxbow quand il était à Golden. De sa fenêtre donnant à l'ouest, il la voyait à toute heure du jour. Il lui suffisait de franchir le seuil de la porte, derrière au troisième étage, et il l'entendait. Ou du moins c'est ce qu'il prétendait. En tout lieu, à toute heure, les yeux fermés, il la sentait, percevait son flux déterminé vers le golfe, son parcours sinueux vers le sud, sa marche réjouie vers l'Atlantique. Seulement un an, ce ne fut pas très long, mais suffisamment pour créer un courant qui lui était propre et pour y embarquer d'autres. Sans le savoir, tout un groupe, Asher, Tony, Hélène, Basil et des dizaines de personnes, fut emporté par le vortex Théo, qui flottait, qui voguait, qui grandissait en masse et en ampleur, coulant vers un océan dont il ne savait pas grand-chose à l'époque. Et rétrospectivement, tous auraient dit, pour louer le vieux monsieur portugais, avec cette intonation dans la voix et constamment un vague sourire aux lèvres, « notre cœur ». Pour reprendre les mots du pasteur, « notre cœur était brûlant en nous ». Chapitre 1. Le premier jour de son année à Golden, Théo se réveilla tôt, ouvrit les rideaux de sa chambre d'hôtel et contempla l'aube au sud. La veille, dans l'après-midi, il était arrivé de chez lui à New York, où l'hiver, avec un mélange tardif de neige et de glace, battait encore son plein. Le vol pour Atlanta, en jet privé, et le trajet en voiture vers le sud jusqu'à Golden, dans une Lincoln Town avec chauffeur, l'avait transporté dans un monde de chaleur, resplendissant d'une myriade de nuances de vert, de jaune, de lavande et de rose. Là, émergeant d'une nuit de sommeil réparateur, il se tint à quelques centimètres de la fenêtre et respira profondément, comme s'il pouvait inhaler la fraîcheur du matin à travers les vitres. Son regard admiratif se posa sur les premières touches du printemps. Puis ses yeux descendirent jusqu'au méandre du large lit de l'Oxbow. Un ruban de brume flottait au-dessus de l'eau. De son poste d'observation au troisième étage, dans la faible lumière précédant le lever du soleil, Théo reconnut de nombreux éléments qu'il avait repérés quand il avait préparé ce voyage. Les rues pavées, l'ancienne usine d'armes des Confédérés, les vieux entrepôts de coton, les chaînes d'avant la guerre de sécession. Mais trois étages, c'était encore trop loin pour quelqu'un d'aussi curieux que lui.